Salut, salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va passer un excellent 60 minutes ensemble ce soir, puisqu'on parle de voitures et de camions en compagnie de Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile. Salut Sam!
Hello, hello!
T'as-tu des bonnes nouvelles à nous annoncer sur ta vie professionnelle?
tu m'as mis dans l'eau chaude, hein, direct en partant. Hein? Bonne nouvelle, ben, je vais me consacrer maintenant à l'automobile plus que jamais.
Félicitations.
Je suis bien heureux de pouvoir mettre beaucoup de montants là-dedans maintenant.
Ouais, puis, c'était ton rêve, puis tu as accédé. Est-ce que ça a été dur de ton moment de réflexion quand on t'a offert de passer ta vie dans le merveilleux monde de l'automobile dernièrement?
J'ai comme une drôle de question. C'est qu'il faut savoir que là, je conjuguais un emploi d'adulte avec ma passion de l'automobile. Tu sais, je faisais les deux. Peut-être qu'il y a de ça quelques années, dans d'autres genres d'emplois ou dans d'autres places que j'aurais eu aucune hésitation. Mais là, j'étais vraiment dans un job que j'aimais beaucoup. Que j'étais bien, mes collègues, ça allait bien, j'aimais ce que je faisais aussi.
Dans une entreprise où tous les gens qui travaillent en communication ont entendu parler de cette entreprise-là comme étant l'entreprise comme le summum.
Oui, exact. Ouais. Ben, j'ai travaillé chez. On peut le nommer, j'ai travaillé chez LG2, qui est une agence de communication, de stratégie, qui est un
très
peu partout.
Oui,
vraiment, mais qui fait beaucoup de choses dans le domaine de la publicité, mais dans la marque employeur, dans le divertissement, dans plein de trucs. Puis la production, le conseil, bref, c'est vraiment une grosse entreprise. Puis j'ai eu vraiment un beau tour de roue avec eux là-bas. Fait qu'on dirait que ça a été dur de comme faire OK, là, je vais vraiment quitter ce job-là, moi. Là. je me suis trouvé un peu prétentieux, on dirait, de vouloir partir d'une aussi belle place.
Parce que normalement, il y a des gens qui travaillent pendant des années pour rentrer dans ce genre de firme-là. Puis toi, ben, ça fait déjà un certain temps que t'es là, puis tu t'en vas pour d'autres choses, mais tu t'en vas pour réaliser tes rêves.
Oui, c'est ça. J'étais comme, tu sais, au début, j'hésitais, puis quand je n'ai parlé avec mes parents puis ma blonde, tout le monde était comme, t'es-tu sérieux?
Es-tu fou?
T'es-tu vraiment en train d'hésiter? Fait que là, ben voilà, je me lance dans une belle aventure avec l'équipe d'RPM, puis j'ai vraiment, vraiment très, très hâte là, de lancer les festivités entourant cette nouvelle position-là.
Fait qu'est-ce qu'on va te voir à télé, là?
Oui et non, je sais pas, mais on m'a dit que oui, dans le sens que j'ai fait déjà RPM+, l'émission qui est après RPM. J'ai fait trois chroniques dans l'émission cette année. J'étais tellement énervé de faire la télé. Me voir à la télé, là, ça a été très difficile. Ça a été très
difficile. On prend 10 livres de plus.
Hein? Oh my God.
Que ça, c'est sans compter, il faut que tu te fasses maquiller.
Ah non, mais écoute, j'étais pas à l'aise. J'étais pas dans un univers dans lequel j'étais à l'aise, mais j'ai adoré l'expérience. Puis, tu sais, d'être assis avec Pierre Michaud, avec Luc Olivier ou Sam, tu sais, de l'émission, c'est un peu irréel. Là, on dirait que je vis-tu vraiment ça, moi, là?
Ouais. Fait que ça a été c'est amplement mérité. Tu travailles extrêmement fort, puis de voir que tu laisses beaucoup pour réaliser tes rêves, je trouve ça exceptionnel. Je pense que les gens devraient prendre exemple sur toi. Tellement de gens qui restent dans leur confort en se disant « Ah, ben j'ai un bon salaire, mais tu sais, ma job, oui, mais j'aimerais peut-être avoir travaillé dans ce domaine-là, mais j'ose pas, régime de pension. » On a juste une vie.
Vraiment.
Puis si jamais tu avais refusé l'offre, tu te serais probablement posé des questions à savoir, et si je l'avais fait, où est-ce que je serais rendu?
Sur mon lit de mort, il y aurait probablement eu des regrets. Il fallait que je l'essaye. Puis tu sais, c'est un milieu, on s'entend. C'est je sais pas qu'est-ce qui arrive de moi dans les prochains mois, dans le sens que j'ai signé un contrat, là, c'est correct, je sais que je vais travailler, mais tu sais, je peux pas te dire, OK, ouais, dans 15 ans, je vais être à telle place, va se passer telle chose. Tu sais, des fois, il y a des carrières que tu peux un peu puisses suivre un ordre logique.
Ouais.
Dans ce cas-là, c'est un peu du hasard. Là,
dans les médias, c'est au jour le jour. La chance que tu as, c'est de travailler pour Pierre Michaud, qui est un homme d'affaires, en plus d'être un producteur et tout ça. C'est un homme d'affaires, il sait calculer, Pierre.
Ouais.
Quand tu es droite avec Pierre, Pierre va être extrêmement droite avec toi. J'ose pas imaginer les gens qui sont pas droite avec Pierre.
Non.
Est-ce qu'ils disparaissent? On le sait pas. Mais c'est un gars qui est en affaires depuis des années, puis ça a tout le temps bien fonctionné.
À Québec, hein, d'ailleurs, aussi, je trouve ça important de le dire. Hein, mais RPM, c'est une boîte de prod de Québec, qui tourne à Québec encore beaucoup d'émissions, puis c'est rare.
Ouais.
Il y a beaucoup de boîtes de prod qui sont à Montréal, qui vont être un petit peu plus loin, mais c'est une émission qui est faite ici, dans notre ville. Ils vont à Charlevoix pour tourner l'émission sur la piste. Il y a de quoi de beau là-dedans, je trouve, pour la ville de Québec. Ça fait rayonner la ville un peu partout. Fait, je suis très fier de joindre l'équipe, vraiment.
Hey, tu vas peut-être être fier de moi, je suis rentré dans une secte cette semaine.
Oh! OK, ça part fort.
Il faut que je fouille dans mes poches, là, parce que j'ai ma carte de membre de la secte.
Oh yeah!
Check ça, madame.
Oh yeah!
La
clé du bonheur.
La clé de la Tesla, c'est un véhicule que j'ai à l'essai de la belle gang de Bernier Auto. Puis, écoute, on est tous un peu fierpettes. Hein? Moi, je suis un homme, je suis capable de tout faire. Il m'a donné cette clé-là, puis là, je me suis dit, OK, ça, c'est le trousseau de clé, puis avec la clé, il y a comme une carte. Mais là, il manque la clé. Et où la clé? Jusqu'à temps que je comprenne que la clé, c'était la carte.
Oui. Puis tu sais que ces cartes-là, habituellement, c'est des clés que, tu sais, quand t'es propriétaire, tu t'attraînes pas avec toi, là.
Non, c'est ça. Exact.
Ça, c'est vraiment comme pour les gens qui ont des chars de location, enterprise, budget, des trucs comme ça, ils vont utiliser ça. Mais quand, mettons, t'es propriétaire d'une voiture Tesla, c'est une clé numérique qui est dans le téléphone intelligent.
C'est ça.
Fait que ça, ces clés-là, c'est un peu comme pour dépanner le monde qui ont pas, sont pas propriétaires de la Tesla. C'est pas vraiment un outil qu'on utilise pour vrai, là.
Mais là, j'arrive avec cette fameuse carte-là. On m'avait dit de le mettre à peu près où le cadre de fenêtre, là, à peu près dans le milieu. Fait que je fais ça. Ah, la fenêtre, la porte déborde. Fait que j'ouvre le véhicule. Je me dis, bon, enfin, je suis rendu dans cette fameuse secte-là. Et je ferme la porte, puis je venais de dire salut au représentant qui me disait, t'as-tu besoin d'aide? Tu vas être capable de la partir? Non, 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 pas besoin de ça. Et là, je prends la petite carte, puis je chaque ça sur le divan, sur le banc d'à côté. Puis là, je cherche mon piton start.
Oui.
Ils ont oublié de mettre le piton start.
Il n'y a pas de bouton start.
Il n'y en a pas.
Non.
Fait que là, je me dis, je ressors dessus pour dire au, finalement au
c'est
rep,
l'orgueil. Là,
hey,
c'est,
peux-tu me dire comment le partir? Fait que j'ai été sur mon YouTube.
OK. L'orgueil était assez fort pour ce point-là. OK.
Comment partir la Tesla? Puis on m'a montré que cette fameuse carte-là, il faut que tu la mettes à un endroit bien précis dans la voiture ou la console à peu près. Puis le véhicule va détecter que tu es là, que c'est bel et bien toi. Puis après ça, tu vas pouvoir prendre le bras de vitesse. Puis
le seul levier, quasiment. Là,
un des seuls leviers.
Il n'y a pas grand-chose dans l'habitacle.
Oui. Puis, tu sais, encore là, je n'étais pas super convaincu, Sam. Tu sais, moi, c'est un genre de iPad à l'horizontale. J'ai plus de cadran devant moi. Je sais pas si ma pression d'huile est correcte. À rien.
Il n'y a pas d'huile dans un char électrique, Yann.
Mais non, je sais.
Non, mais tu sais, c'est pas grave.
Toi, tu le sais. Mais moi, je le sais.
Oui, c'est ça.
Mais j'en prends conscience quand je rentre dans le véhicule. Fait que je mets ça sur le drive. Je me dis, le moteur n'est pas parti. Puis, il n'y a rien qui se passe. Là, je me dis, il va toujours bien peser sa pédale et ta boire.
Ça décolle, hein?
Ça décolle, mais t'entends pas le bruit du moteur. C'est un autre monde, la Tesla. Là, ça fait presque 24 heures que je l'ai. Je trippe sur ce produit-là comme pas possible.
Avoue qu'à la lumière, tu pèses fort sur le gars.
Ben c'est ça. Tu sais, Bernier Auto, là, on entend Bernier, on se dit c'est comme à 3 heures d'ici, là, mais c'est juste, c'est à côté du Saint-Hubert, c'est à Saint-Nicolas. Là.
Ouais.
Puis il est directement à côté de l'autoroute. Fait que quand je suis sorti du concessionnaire, j'ai embarqué sur l'autoroute. Le 0-100, Sam, là,
c'est
ça n'a pas de bon sens. T'as l'impression d'être dans un char supersonique.
Ah oui. C'est l'instantanéité.
C'est sûr que je pars d'un Wrangler, je passe d'un Wrangler à ça. Là,
mais oui, mais en même temps, c'est un peu c'est une caractéristique qui est réelle des voitures électriques et qui impressionne souvent les gens aussi. À vrai dire, ça m'impressionne moi-même. Là, je dis les gens comme si je faisais pas partie du monde. Moutou, ça m'impressionne. Ouais. C'est tellement rapide comme accélération, c'est tellement direct. La puissance du moteur est directement aux roues. Donc, dès que tu accélères, il n'y a pas une espèce de délai de transmission qui rentre là-dedans pour amener la puissance. C'est automatique. Il n'y a pas un turbo. T'sais, les turbos, des fois, il y a le fameux turbo lag qu'on appelle, parce que tu as comme un délai avant que le turbo embarque. Puis les constructeurs automobiles ont travaillé tellement fort dans les 10-20 dernières années pour développer une espèce de... Il n'y en a pas, là. Tu le sens plus, le turbo lag dans les voitures, tellement que c'est rendu bien ficelé, puis à quel point on travaille fort autour de ça. Mais une chose qui est certaine, c'est que la voiture électrique, là, cette caractéristique-là d'être extrêmement, puis permettez-moi l'expression, snappy.
Non, ça part comme une balle.
Ça snap, c'est automatique. Tu pèses sur l'accélérateur, puis tu as tout de suite du jus là, qui arrive. Ouais. Là.
Il a fallu que je m'adapte, par exemple. Parce que quand tu lâches, mettons que tu fais du 0 au 100, puis que tu arrives à 100, mettons 119, là, je ne mentirai pas à personne, tu arrives à 119, dès que tu lâches un peu la pédale,
ça régénère.
Tu as l'impression que ça freine.
Oui.
Fait qu'il a fallu que je sois plus léger sur la pédale que ce que je le suis normalement avec mon Wrangler. T'sais, mon Wrangler, je longe la pédale, c'est pas grave. Là, c'est sur le neutre. Là.
C'est drôle parce que ça fait partie des choses qu'il y a plusieurs groupes de gens à travers le monde, surtout en Europe présentement. Là, il y a beaucoup de réglementations qui passent en Europe pour les fameux AIV, là, les assistants intelligents à la vitesse là, qui sont là pour faire ralentir les véhicules selon les panneaux routiers que tu vas croiser. Il y a plein de systèmes à bord. C'est un long sujet, on le traitera, là, mais bref, il y a des groupes à bord de ces espèces de nouveautés-là qui sont pour dire qu'il faudrait qu'on donne une chance aux gens de réellement essayer une voiture électrique avant de leur donner une clé d'un char électrique. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre. C'est pas la même manière de conduire, c'est pas les mêmes habitudes qu'on a, c'est pas les mêmes comportements qu'on peut avoir avec une voiture électrique. Tu sais, ce que tu as dit, tu payes, ça va vite, mais il y a beaucoup d'accidents c'est niaiseux, là, mais il y a beaucoup d'accidents de gens qui, juste parce qu'ils sont pas habitués, puis habituellement, mettons, aux autres, justement, ils ont une voiture un peu plus âgée ou quoi que ce soit, puis, tu sais, ils sont habitués à mettre une bonne pression sur l'accélérateur. Mais quand tu mets une bonne pression sur l'accélérateur d'une voiture électrique, là, ça avance très, très vite et rapidement. Puis c'est pas tout le monde qui est habitué de gérer cette puissance-là, puis cette espèce de coup là, d'accélération qu'on va avoir. Donc, il y a comme une espèce d'école de pensée actuellement que je suis entièrement d'accord, où est-ce qu'on devrait toujours prendre le temps, avant de faire acheter un véhicule électrique à quelqu'un, d'avoir une espèce de pré-cours de conduite, un peu comme les spiders, tu sais, les spiders.
Une journée, à peu près.
Ben, oui, puis tu sais, peut-être moins long que ça, là, dans le cas d'une voiture électrique, tu sais, avec le représentant qui est devant le véhicule, d'avoir une espèce de séance de conduite pour juste commencer à comprendre les techniques de conduite ou comment ça fonctionne, juste avoir les bons réflexes, parce qu'effectivement, selon le niveau de régénération que tu vas mettre sur le véhicule, il y a des compagnies que tu peux vraiment mesurer le niveau de régénération, donc tu peux vraiment les mettre très intenses, et en lâchant l'accélérateur, ben, le véhicule, lui, vient régénérer sa batterie. Donc, il va utiliser la force du véhicule puis l'air de mouvement du véhicule pour faire régénérer de l'énergie à bord de la batterie pour essayer de conserver le plus longtemps possible ton autonomie ou t'en donner plus. Puis, tu sais, je l'ai déjà fait avec des véhicules, tu pars à 400 km, puis si tu conduis vraiment prudemment puis que tu utilises beaucoup les modes de régénération, je gagnais 405 km finalement. Parce que je régénérais tellement beaucoup, puis j'étais tellement dans des routes où est-ce que c'était sinueux puis que j'étais en pente descendante, je faisais juste lâcher l'accélérateur, puis les moteurs, en régénérant de l'énergie, bien, rechargeaient ma batterie. Mais quand tu ne sais pas conduire avec ces systèmes-là, c'est pas comme une voiture à essence que tu lâches l'accélérateur puis le véhicule continue d'aller tout droit. T'sais, le véhicule électrique, lui, il va vraiment ralentir. Là. Les lumières de brake vont allumer en arrière. Là. C'est vraiment comme il va freiner quasiment tellement que c'est puissant la régénération. Puis ça, ça prend une période d'adaptation. Vraiment. Puis je pense que ça, c'est important que si un jour vous avez envie de l'essayer, puis si je vous l'invite parce que tu as l'air de triper, c'est-tu ton premier char électrique que tu essaies? Ou...
C'est le deuxième ou le troisième, mais c'est la première fois que j'essaye une Tesla. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours aimé les chars à gaz. Tu sais, j'étais un tripeux de muscle car. Ouais. J'ai toujours eu des trucks dans la vie. Puis, j'ai mis ça sur ma page Facebook, Sam. J'étais obligé de faire un peu de tri là-dedans, là, parce qu'il y en a qui exagèrent un peu, mais. Il y a des gens qui n'ont jamais essayé l'électrique et sont contre ça à côté, là. Ouais. Puis il y a un auditeur, puis je le salue, là, s'il nous écoute, je nommerai pas son nom, là, mais il a dit, je vais juste retourner sur son message, « Je n'étais pas convaincu au départ, mais depuis que je l'ai essayé, j'ai totalement changé d'idée. » Fait que lui, là, il est un peu comme les machos là, dont je faisais dont je faisais partie, c'est-à-dire, moi, un char, c'est à essence. Là, j'ai essayé le Tesla. C'est pas un véhicule, à mes yeux, à moi, qui au départ aurait été adapté, mais là, j'ai une capacité de quoi, de près 300 km.
Ça dépend de la version que tu peux avoir. Tu peux l'avoir cherché plus que ça, même
plus là, que ça.
450 km facile.
Ben, quand je t'ai embarqué dedans hier, il était autour de 300, puis Stéphane me dit, tu penses-tu faire ça en 2-3 jours, 300? Je dis, non, je peux faire beaucoup moins que ça. Mais c'est un véhicule qui pourrait être parfaitement adapté à mon style de vie sans aucun problème.
Là. Clairement, si tu ne passes même pas faire 300 km en 3 jours, là, tu peux clairement avoir clairement un profil de conducteur électrique là, sans
mais
problème.
Ce que je comprends pas, puis tu sais, je respecte ceux qui le font, là, mais ceux qui font de la longue route et qui se ramassent là, au IGA ici à côté et qui restent dans le char pendant une demi-heure, moi, je ne serai jamais cette clientèle-là, d'être dans mon char pendant une demi-heure pour régénérer mon véhicule. Mais si tu me dis 300 à Québec, j'aurai aucun problème avec ça, d'avoir ce type de char-là.
Mais tout dépend du profil, tu sais. Puis t'amènes de quoi de super intéressant en disant les gens qui n'ont jamais essayé ont souvent l'habitude de d'être réfracteur, tu sais, on connaît pas ça, c'est nouveau.
La méfiance, c'est correct.
La méfiance,
mais
c'est
de
correct.
Le rejeter, c'est un peu d'un manque d'éducation.
Faut l'essayer.
Ben oui.
Faut l'essayer au moins une fois dans sa vie pour après ça avoir un jugement. Puis après ça, je suis en train de dire que dès qu'on l'essaye, on aime ça automatiquement. Moi, ce que je peux dire, par contre, c'est qu'à la base, je suis un passionné d'auto. Je rêve sur des chars à gaz manuels. Moi, j'aime les bâtons, j'aime conduire des chars manuels. Là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis comme ça pour l'instant encore dans ma vie. Mais je suis encore capable de dire que c'est impressionnant, pareil, de voir le confort d'une voiture électrique aussi. C'est silencieux, on se sent bien à bord, le niveau technologique,
c'est
les accélérations qu'on a à avoir, c'est beaucoup d'adaptation, mais une fois qu'on y prend goût, tu sais, moi, la régénération, là, la conduite à une pédale, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle là, dans le domaine automobile, là, c'est que tu as juste une pédale à conduire, dans le fond. La pédale d'accélération peut aussi gérer le freinage du véhicule, fait qu'à un moment donné, tu prends l'habitude de conduire juste avec un pied. Puis quand tu passes beaucoup de temps à bord d'une voiture électrique, à un moment donné, ça devient naturel, tu touches quasiment jamais à la pédale de brake, pour vrai, là, tu sais, quand tu y pèses, parce que là, il faut que tu freines vraiment moment d'urgence où il y a quelque chose. Sinon, si tu es un peu prévoyant puis que tu gères bien tes environnements, tu conduis vraiment juste à une pédale. Puis ça, pour moi, c'est une des plus belles choses qui existent dans les voitures électriques. C'est tellement agréable de faire de la grande route avec une seule pédale à gérer. Ça a l'air plate, dit de même, je comprends, mais quand on l'essaie puis qu'on le vit, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a de quoi de relaxant, il y a de quoi de facile avec ce genre de conduite-là qui est au bout de la ligne très agréable. C'est pas pour tout le monde, je comprends, mais avant de le rejeter, comme tu disais si bien, il faut l'essayer avant toute chose.
Il y a un vieux loup avec qui j'ai fait de la radio pendant quelques années, c'est un gars que j'adore, s'appelle Christian Page. Oui. C'est l'inspecteur du paranormal. Et, lui, il me disait, tu sais, Yann, on a comme été élevé depuis qu'on est jeune à toutes les opinions se valent.
Oui.
Mais il dit, tu sais, si tu avais mal à la tête, puis tu te posais la question à deux personnes, la première étant un chirurgien qui est capable de t'ouvrir le crâne puis te retirer les tumeurs, versus l'autre qui est un, je sais pas moi, un dentiste. Tu vas suivre l'opinion de qui, mettons, sur ton mot de tête?
Ouais.
Le gars qui est capable de t'ouvrir le crâne ou ben le gars qui est étudié pour ce qui est des, mettons, un dentiste?
Ouais, ouais.
Ben tu vas dire, OK, non, mais ça va être peut-être être le gars qui est un chirurgien. Puis des fois, c'est encore pire que ça, les distances. Ça peut être le chirurgien versus quelqu'un qui travaille en assurance. Mais la personne en assurance, ça va te donner un conseil médical. Non. Tu sais, quand tu donnes ton opinion, tu peux donner ton opinion, bien entendu, mais c'est pas vrai que toutes les opinions se valent.
Non.
Et moi, ton opinion est très peu importante si tu l'as pas essayé, ce véhicule-là. Tu as le droit de me dire que tu l'as essayé puis tu as détesté. Ça, ton opinion, à mes yeux, à moi,
vaut quelque chose.
Ça vaut quelque chose. Mais si tu l'as pas essayé puis tu le rejettes, ton opinion, excuse-moi, ça vaut absolument argent.
Non, puis il faut pas prendre, tu sais, se dire, OK, automatiquement, dès que j'embarque dans une voiture électrique, c'est sûr que j'y vais un moment extraordinaire. C'est pas le cas de toutes les voitures électriques non plus. Puis c'est correct de pas aimer ça non plus. Tu sais, il y a des gens qui me disent, j'en ai essayé, j'ai juste pas aimé ça, puis j'ai décidé de
mettre.
Ben, OK, fine. Puis tu sais, je respecte ça vraiment beaucoup, tu sais, d'avoir un. J'ai pris la peine de l'essayer, j'ai juste pas aimé ça. Je comprends, tu sais, qu'il y a des profils de gens qui peuvent aimer ça, mais moi, j'aime pas ça. OK, fine, je dors avec ça. Tu sais, tantôt, tu parlais d'attendre dans un IGE pendant 30 minutes de temps. Tu sais, ceux qui font de la grande route. C'est drôle, mais c'est ainsi, je parle beaucoup toujours de voitures électriques. Là, on a le temps, là, comme constamment.
T'es rentré dans le sec.
Non, mais j'ai pas le choix. Tout le monde me parle de voitures électriques aussi. Là. Des fois, j'aimerais ça parler comme de vieux moteurs à gaz, là, mais c'est plus vraiment ça, les conversations que j'ai maintenant. Mais tu sais, je parlais avec des professionnels, justement, qui faisaient beaucoup de routes entre Québec et Montréal. Puis eux autres, c'est des gens dans le domaine de la technologie. Tu sais, des gens qui sont capables de faire des rencontres à distance ou qui ont leurs ordinateurs avec eux autres dans l'auto et compagnie. Mais eux autres, tu sais, ils voient ça comme nécessaire, dans le fond, de prendre une pause en allant vers Montréal. Parce que souvent, il faut qu'ils arrêtent pour répondre à des courriels ou qu'ils arrêtent pour répondre à des appels ou des choses comme ça. Fait que maintenant, ces gens-là, dans leur calendrier, puis avec leur voiture, parce que tu peux même le programmer dans ton véhicule, tu peux dire, ben moi, je pars à Québec, je voulais partir vers 11 h, puis j'aimerais ça arriver dans le coin de 4 h à Montréal maximum, parce qu'à 4 h, j'ai quelque chose là-bas. Mais entre les deux, je veux arrêter de dîner. Puis je veux recharger mon véhicule au moins une autre fois parce que je veux prendre des appels. J'ai un meeting à 2 h qu'il faut absolument que je prenne dans mon véhicule. Puis là, les voitures sont capables de tracer le trajet parfait pour arriver à dîner, puis arrêter après ça une autre fois pour aller faire le meeting. Donc là, les gens s'installent dans leur voiture, sortent le laptop, mettent la thermopompe à froid, fait qu'ils ont l'air climatisé, sont bien assis, font leur rencontre dans leur voiture, referment les ordinateurs et retournent.
Ils se sont adaptés.
Exactement. Puis il y a des gens qui ont cette vision-là de ben, la pause que le véhicule me demande de prendre sur la route.
Je vais l'optimiser.
Anyway, je l'aurais fait pareil. Ouais. Fait que rendu là, ça fonctionne bien. Puis tu sais, j'ai fait le parc des Laurentides en Polestar Model 2. Okay, j'ai fait une vidéo qui est sur la page de RPM, d'ailleurs, ceux qui sont sur YouTube, ceux qui ça les intéresse. La Polestar 2, qui est un équivalent un peu de Volvo, si tu veux. On fait toujours cette association-là parce que les véhicules se ressemblent beaucoup, mais la Polestar, au bout de la ligne, c'est une entreprise à part entière. C'est vraiment une marque automobile. Ça appartient au grand groupe Geely, là, qui est comme un espèce de gros groupe chinois qui possède Volvo. Et ils ont lancé aussi la brand Polestar. Ils ont fait exprès de l'associer avec Volvo visuellement parce que tu te dis « Ah, ben c'est comme la voiture électrique de Volvo, mais il faut faire attention. » Parce que Volvo ont leur propre voiture électrique. C'est basé sous les mêmes technologies ou à peu près. Puis tu as Polestar qui est vraiment une autre marque à part entière. Puis pour le temps, on sorti une gamme de produits électriques au Canada. Puis c'est drôle, mais tu sais, mettons que tu aurais appelé ça, je sais pas moi, BYD, là, comme le gros géant chinois qui fait des voitures électriques, ou tu appelles ça China Express. Là. Je t'invente un autre de constructeur automobile qui n'existe pas. Là. Mais tu sais, peut-être que les gens auraient eu plus peur un peu d'acheter ce genre de produit-là. Mais là, vu que le groupe possède Volvo, qui a comme une association qui s'est faite naturelle, les gens ont embarqué dans Polestar, puis ils trouvent ça. Les gens aiment ces produits-là. Ça se vend bien au Québec, honnêtement, puis on les vend bien. Puis j'ai fait un test, je suis parti de Québec avec un Polestar modèle 2. J'avais le modèle Performance. Le modèle Performance donne grosso modo autour de 380 quelques kilomètres d'autonomie. C'est ça à peu près ces chiffres qu'il va avoir. Une fois qu'on se dit ça, tu dis ben, le parc de Laurentides, c'est 200 km-ish, 220 km à peu près. Fait, je me dis, ben, je vais l'essayer. Moi, je vais partir de Québec avec une batterie pleine. Je vais faire la route, mais en hiver. Fait qu'il faisait moins 13. Il faisait pas moins 40, là, il faisait moins 13. C'était pas si froid que ça comme journée. Mais je me suis dit, je vais l'essayer, mais je vais pas l'essayer comme l'électromobiliste parfait. Ce qui veut dire, je vais diminuer ma climatisation minimum, je vais rouler le moins vite possible.
L'électromobiliste.
Il y a automobiliste, il y a électromobiliste. C'est un autre terme qu'on utilise.
Attends, les propriétaires d'automobiles électriques, c'est oui, oui. Plus des automobilistes.
Ben, celle-là encore, mais tu peux les appeler les électromobilistes.
Ah!
Mais c'est ça pareil.
Tu sais, moi, j'essaie de rallier tout
oui,
le monde.
Oui, je sais.
Puis il y a des gens qui essaient de se créer une distance envers les automobilistes. Je trouve ça hallucinant. Les électromobilistes. Hey, tu oui. m'en apprends.
Oui, mais c'est un terme utilisé pour de vrai dans le domaine pour parler des gens qui conduisent des voitures
oui.
électriques.
Oui. Quand ils prennent leur café, là, le petit doigt, il est
dessus. Probablement. Puis, ils prennent pas des cafés, ils prennent des shots d'expresso.
Ah c'est, oui, excusez.
C'est pas de crème.
J'ai dit café, c'est beaucoup trop commun.
Non, c'est ça, exact. Mais en tout cas, les électromobilistes. Et souvent, les gens qui ont des voitures électriques, on peut le dire comme ça aussi, ont tendance à être très optimistes envers leur véhicule. Tu sais, ils vont nous dire, hey, moi, j'ai réussi à faire telle distance, mais ils ont roulé 80 dans la voie de droite en suivant une vanne, pas de chauffage dans le char, les vitres embuées pour sauver la batterie le plus possible. T'sais. Moi, j'ai déjà fait le test d'aller au Saguenay avec mon Polestar 2, mais en conduite normale. J'ai mis 110 km/h. C'est ça la ligne que je me suis dit. Là. Justement, je le fais plus autour de 115. Je vais le faire à 110. Climatisation au fond, il faut que les vitres soient désembuées puis que je sois bien dans le char. Puis j'ai fait la route avec le véhicule qui, justement, tu sais, avec une espèce de 300-ish kilomètres qui me donnait au départ, là, c'est à peu près ça qui me donnait.
Ouais, faisait quoi comme température?
Moins 13. Okay. Puis en roulant, j'ai réussi à me rendre au Saguenay, mais sans problème, là. Comme vraiment sans aucune difficulté. Là. Ça a été facile. Je suis arrivé au Saguenay, il me restait encore à peu près 200 km d'autonomie parce que le véhicule s'est régénéré en descendant des côtes dans le parc, ouais. Travaillé sur ces systèmes. Puis j'ai pas eu besoin d'arrêter à l'étape, même pas une seconde. Puis je suis arrivé au Saguenay, j'ai fait du viroyage, je me suis rendu jusqu'à Jonquière, j'ai fait du petit magasinage. Puis le soir, ben, je suis allé le plugger dans une recharge là-bas, puis il était plein de batterie après une heure. Fait que je me dis, ben. T'sais, c'est encore possible tranquillement de faire des plus grandes distances avec des véhicules. Il y a des véhicules qui se développent de mieux en mieux vers là aussi. Est-ce qu'on est rendu à la formule de se dire tout le monde est parfait, est un parfait candidat pour la voiture électrique? Pas du tout. Anyway, au prix que ça coûte, c'est vraiment pas tout le monde. Et en même temps, ben, t'as pas non plus les specs d'autonomie qui vont respecter les styles de conducteurs qu'on va avoir. Donc, c'est un espèce de jeu intéressant, mais... Je veux pas être plate, là. Je veux pas péter la ballonne à personne, mais on s'en va vers là pareil. T'sais, même si c'est du monde qui s'accroche encore à l'espoir que les moteurs thermiques vont survivre et vont rester en vie encore longtemps, il y a des constructeurs, comme les constructeurs japonais, Mazda, Subaru, Toyota, qui parlent de faire une espèce de carburant neutre en carbone, une espèce de carburant synthétique qui n'émettrait pas de pollution. Puis là, eux investissent beaucoup sur le développement de leurs moteurs avec ces technologies-là. Mais écoutez, on n'est pas rendu à la distribution de ce genre de carburant-là dans les tanks à gaz au coin de la rue. Là. On n'est pas rendu à avoir la production assez faible en coût ouais. pour donner un prix qui a de l'allure par rapport à ces carburants-là. Puis... accrochez-vous pas trop fort à l'essence. C'est un peu ça mon message que je veux vous dire aujourd'hui. Je dirais que je suis comme en train de passer un message important, mais ça l'est pareil. Je sais qu'il y a plein d'amateurs qui vont me dire « Ah, check l'autre vendu qui tripe ses chars électriques. » C'est pas le cas. Là. J'ai un Golf à bâton, puis j'aime conduire des chars manuels. Puis ça n'a pas rapport. C'est juste une question de demander si tu veux continuer à aimer l'automobile, faut que tu emboîtes le pas un peu puis que tu regardes les possibilités dans la transformation énergétique qu'on vit actuellement. Puis l'électrique, bien, on s'en va là, qu'on le veuille ou non.
OK. Hey, dernier sujet avant de présenter le premier sujet qu'on voulait aborder.
Oui.
Fait que dernier sujet avant celui-là.
Avant le premier sujet.
J'ai un gars que j'aime bien, que tu connais. On le nommera pas en ondes, mais je vais essayer de te montrer sa photo. Là.
J'ai hâte de voir. Hein, je suis un peu...
Ce gars-là.
Oui, 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 oui.
OK. Actuellement, il essaie de passer sa Miraille.
Oui.
C'est un véhicule à l'hydrogène.
Oui.
On a une station d'hydrogène à Québec, c'est bien ça?
Oui, puis elle est belle par contre, hein, je l'ai vue dernièrement, c'est super beau, c'est une belle station.
Ça se vendait combien ce char-là à l'état neuf.
Mettons, un Toyota, on parle de la Toyota Mirai.
Toyota Mirai,
il y a
ouais.
deux générations actuellement. Il y en a une nouvelle qui vient d'arriver qui était honnêtement, franchement, mieux que la première. Là, je veux pas être plate avec personne, mais vraiment, la première génération était moins intéressante que celle-là. Mettons, en 2018, une Toyota Mirai flambant neuve, ça pouvait coûter extrêmement cher. On parle d'un prix autour d'un 50 000 $ 60.
Avec le financement, c'est 60, c'est sûr.
Facilement. Puis, tu sais, des fois, je pense que quand tu l'équipais comme il faut, tu pouvais être rendu jusqu'à du 70 000. Là. C'était assez possible.
OK. Puis là, ce char-là se vend à peine 12 000 $ actuellement dans la grande région
oui,
de Québec.
Oui.
C'est une perte incroyable.
Oui, oui, vraiment. Puis les constructeurs, ben, les concessionnaires qui en avaient en stock aussi n'ont jamais réussi à les vendre vraiment à 73 000. Tu sais, le prix que tu as été suggéré en 2018, on n'a jamais vraiment réussi à le vendre à ce prix-là non plus. Il y a eu énormément de rabais qui ont été appliqués sur ces véhicules-là. On a fini par les vendre vraiment pas très cher non plus. Il faut savoir aussi que le gouvernement du Québec avait investi beaucoup hein, dans l'association avec Toyota par rapport au développement de cette technologie-là. On a eu beaucoup de Toyota Mirai au sein des véhicules du gouvernement. Donc, il y a des gens, exemple, les inspecteurs de la MAPAC okay. qui partaient faire de l'inspection.
Ils ont leur propre borne?
Ils n'ont pas leur propre borne. Ils vont à la même station de ravitaillement que tout le monde. Mais il y a eu des tests qui ont été faits avec le gouvernement. Il y a eu des voitures gouvernementales, des Toyota Mirai à l'hydrogène. C'est vraiment là, une technologie que, pour l'instant, de la manière que ça se développe et que ça s'en va, on s'en va pas à bonne place. Là.
Non, c'est ça. Puis le jour où cette station-là va dire « Nous autres, c'est terminé », ils font quoi, ces gens-là?
Leur véhicule ne fonctionnera simplement plus. Fait que j'imagine qu'il y a une espèce d'entente qui fonctionne à quelque part pour dire qu'elle n'arrêtera pas de fonctionner. Mais tu sais, pour l'instant, c'est la seule station qui fournit de l'hydrogène.
Écoute, c'est un 2018. Tu me disais que c'était entre 50 et 60 000 $ quel financement.
Mettons 50 000, c'est après les rabais appliqués là, parce qu'au départ, on parlait de 73 000 $ là, pour le véhicule.
13 700 kilos le véhicule, donc il est pratiquement neuf. 2 ans de garantie complète de Toyota, 4 nœuds d'hiver, 4 nœuds d'été qui sont neufs, 3 minutes pour faire le plein, 440 km d'autonomie. Il vend ça 13 000 piastres.
Oui, puis c'est un véhicule aussi très bien équipé en dedans. Hein. Il y a beaucoup de technologie.
Ça pourrait s'adapter à qui, ça, ce véhicule-là? À quelqu'un qui reste vraiment juste dans la région de Québec?
Oui, ou quelqu'un qui, tu sais, il y a ça aussi comme mentalité, hein? On pense que tout le monde prenne leur voiture pour aller ailleurs. Il y a des gens qui ont juste une voiture pour courroyer en rond. Là. Des gens qui n'aiment pas ça non plus, prendre leur voiture puis conduire longtemps. Il y a des gens qui, aller à Montréal en voiture, c'est un cauchemar. Là. Pour vrai, il y a des gens pour qui prendre leur voiture puis y aller, c'est pas le fun. Il y a beaucoup de gens qui restent dans le secteur de Québec puis qui tournent en rond autour d'ici, là, énormément plus qu'on pense. Là.
Fait que ce véhicule-là qui se vendait 50-60, qui est une 2018...
Mais tu sais, mettons que tu habites dans le coin, c'est sur boulevard Amel.
Ouais, c'est quoi, Henri IV, boulevard Amel?
Ouais, exactement, c'est vraiment au coin. Là. C'est juste là, il y a un nouveau PFK qui est là.
Ouais.
Et ma référence, c'est le nouveau PFK, c'est assez épouvantable. Mais en tout cas, c'est dans ce coin-là. Puis juste en face, dans le fond. C'est vraiment là, la station, c'est une belle station de service. Correct. Mais mettons que vous vivez dans ce coin-là, vous êtes autour de la station-service.
C'est correct.
Puis que tu sais que tu restes beaucoup dans le coin de Québec, puis c'est une voiture, bien, c'est une belle voiture électrique qui ne te consommera pas beaucoup d'énergie non plus, qui ne te coûtera pas une fortune à faire rouler, qui est bien équipée, qui a une tonne de confort également à bord. Ben, pourquoi pas, tu sais. Mais là, tu as vu à quel point j'ai gratté.
Faut la valeur de revente, c'est quoi?
Ben là, à 13 000 après ça, au pire, tu vas le vendre 8 000, mettons, là, dans 4 ans.
Mais
là.
Qui va le vouloir?
Une personne qui habite proche de la station, autour de. Non, mais tu sais, comme je t'ai dit, je gratte depuis tantôt, là, mais imagine-toi, mettons, ce scénario-là n'existe pas à Montréal. Tu sais, il faut vraiment que tu sois à Québec, il faut vraiment que tu sois quelqu'un qui vit à Québec pour avoir une Toyota Mirai, sinon c'est complètement illogique.
Il n'y a pas de borne à Montréal?
Non, il n'y en a pas encore. Ou de ce qu'aux dernières nouvelles, il y en avait juste une, puis elle était ici. Peut-être que là, je sais qu'il y a une entreprise qui était censée le faire de l'hydrogène verte dans le coin de Montréal. Il y a une grosse usine qui a été construite là-bas. Est-ce qu'ils ont finalement réussi à mettre des bornes d'hydrogène? Peut-être, j'ai pas fait mes recherches là-dessus dernièrement, mais pour l'instant, la seule et unique officielle, c'est celle à Québec. Fait que, pour l'instant, mettons que tu veux avoir un véhicule hydrogène, il faut que tu vives dans la capitale nationale.
Puis tu peux pas mettre ça dans un. Tu peux pas emmagasiner ça quelque part, cet hydrogène-là. Tu peux pas entraîner un peu avec toi. Là.
Non, ça marche pas de même.
T'es, t'es pogné dans le parc, tu peux pas dire à un véhicule, rapporte-moi de l'hydrogène.
Tu vas pas dans le parc avec ta Mirai. Tu fais pas le parc, là, oublie ça. Là, non, comme je te dis, c'est un véhicule. commission, là.
Ah non, j'ai une pensée pour vous autres, parce qu'honnêtement, c'est une perte d'argent monumentale, ce véhicule-là. Hey, top 10 des véhicules qui se font voler. Tu voulais nous parler de ça, parce que tu as fait un article relativement à ça dernièrement. On en a déjà parlé, toi et moi. On dirait que c'est tellement pas à l'avantage des constructeurs de faire une voiture qui est pratiquement involable qu'ils se permettent pas de s'en aller là-dedans en disant « Nous, on donne une certaine sécurité. Si ce véhicule-là se fait voler, ben nous autres, on vous en redonnera un autre, tout simplement. »
Exact.
Avec les assurances.
Mais j'en écoute, je suis content parce que j'en parle depuis vraiment un bout. Là, que je dis « Là, maintenant, vous allez voir là, les communications puis le marketing. On va commencer à entendre parler des constructeurs automobiles qui, là, ils ont un nouveau système spécial de sécurité biométrique ou quelque chose du genre.
Reconnaissance faciale, mais ça... avec un code en rentrant, c'est-tu si compliqué que ça?
Mais ça s'en vient vraiment, ces communications-là. Je vous le jure, là. Je le dis depuis au moins une bonne année. Là. On va commencer à entendre ça pour nous vendre des chars. Ça s'en vient. Là. On entend déjà des constructeurs tranquillement emboîter le pas, en parler un petit peu tranquillement. Ah, des affaires qui s'en viennent à ce niveau-là. Fait que là, tu vois que ça va devenir un argumentaire de vente bientôt pour les constructeurs, la sécurité anti-vol de leur véhicule. Un peu comme à l'époque. Hein? Tu sais qu'on a vu les premiers systèmes d'alarme dans les voitures. Là. Tu débarrais une porte, puis ils sonnaient le char. Là. C'était bien révolutionnaire. Là. Le monde capotait là-dessus. T'sais. Mais là, on va avoir la nouvelle génération de cet antivol-là qui va s'en venir assurément. Il y a des constructeurs comme Genesis qui...
C'est partie de la génération qui avait des chums qui rentraient au bar avec leur radio complet. Là.
Pour pas la faire voler.
Pour pas se faire voler avec le rack au complet.
Mais ça valait la peine.
Puis après ça, ils ont sorti les fameuses petites plaquettes là, que tu mettais sur la radio. Puis là, tu rentrais dans le bar juste avec ta plaquette que tu mettais dans ton manteau.
Ouais.
Je fais salue, partie de cette génération-là.
Je salue ma belle-mère qui s'était fait voler cette plaquette-là, mais pas la radio. Fait que le gars était rentré dans son char, avait volé juste la plaquette, mais il n'y avait pas toute la radio dans le fond. Fait que ça servait à rien. Ça servait juste à rien. Il avait juste volé le devant de la radio, mais pas le système de radio. Fait que lui, il avait juste un bout de plastique lumineux dans les mains.
C'était fou. Mais c'était un beau moment, ça, quand ils ont sorti les plaquettes, parce que rentrer dans le bar directement avec ta radio, ça faisait bizarre. Fait que ce que les gens faisaient, c'est qu'ils prenaient la radio. Il la retirait, puis il la mettait en dessous du banc.
Au moins caché. C'est ça, au moins caché. Non, c'est une autre époque, mais c'était différent. Là, aujourd'hui, c'est que, on dirait que le prix des véhicules est tellement rendu gros que de se faire voler un char, c'est rendu vraiment tannant financièrement aussi. Là.
Ouais.
Les assurances augmentent, c'est tannant pour tout le monde.
Mais t'es persuadé, toi, que les constructeurs vont embarquer là-dedans parce qu'ils sont tannés que les gens se fassent voler leur voiture?
Tellement. Mais c'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils n'auront pas le choix. Ils se font tellement mettre de la pression par plusieurs pays, partout dans le monde. Que ce soit en Europe, que ce soit ici en Amérique du Nord, des provinces, ben, je l'ai déjà parlé, là, mais les États qui poursuivent des constructeurs automobiles aussi, là, ça arrive pour de vrai. Puis, tu sais, même nous ici, au Canada, on a des enquêtes qui se font autour de certains produits parce que pourquoi vos produits se font plus voler que les autres, si on veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait qu'il y a vraiment une pression un peu politique maintenant impliquée là-dedans. On a fait le fameux sommet contre les véhicules volés au début de l'année. On voit déjà qu'il y a de l'investissement fédéral qui est mis à travers les différentes instances comme les ports, les services de police pour équiper ces gens-là de meilleurs outils, de meilleures manières de faire pour empêcher le vol. On a vu des résultats déjà un peu quand même, pour vrai. Il y a des véhicules qui ont été retrouvés en grosse quantité, des réseaux de crimes qui ont été démantelés aussi par les polices ontariennes et québécoises. Fait qu'on voit qu'il y a quand même un effort de guerre qui se fait autour de ça, mais les constructeurs se mettent beaucoup de pression. Puis moi, je crois qu'à un moment donné, ils vont le monétiser. Je crois pas qu'ils le font de bon cœur. Je pensais pas ça. Je pense qu'ils vont le faire pour faire de l'argent. Ça, j'y crois. Puis j'ai hâte de voir, ça va être quoi la technologie qu'ils vont essayer de vendre avec ça. Parce que, tu sais, la liste est quand même assez impressionnante de véhicules qui se font voler, puis ça part de tous les sens, de tous les côtés. C'est principalement des camions, c'est principalement des VUS. Il y a une voiture dans le palmarès. Pour qu'on dit, là, il y en a juste une. C'est la Civic. C'est la seule voiture qui est là. Sinon, toutes les autres, c'est des VUS. T'sais, on a le Hyundai Tucson.
La Civic est encore là-dedans.
Oui, la Civic est encore là-dedans. Oui, mais encore là. Il y a un bon niveau d'exportation qui se fait avec la Civic.
T'sais, on est passé de la personne qui arrive avec son support à linge un peu démanché, qui réussit à ouvrir la porte, qui embarque en dessous du volant, puis les branches des fils.
Les fameux fils. Hein?
Après ça, il fallait qu'il casse un peu le volant. Il y avait une barrure. Là. Fait qu'il fallait qu'il casse le volant. Au gars qui achète un truc sur Amazon, qui est capable de faire croire à ton véhicule que c'est toi qui es à côté en prenant justement cet appareil-là qui vaut moins de 100$ de ce que je comprends.
Oui, absolument. On capte les ondes, on reproduit l'onde de la clé puis on rentre dans le char sans rien casser.
C'est
rendu assez fou de même. Mais tu sais, la Civic est là, est en troisième place quand même des véhicules les plus volés au Québec dernièrement. Là, c'est une étude qui a été faite qui est super intéressante parce qu'on a vraiment les données par province. Fait que là, on sait que, mettons, au Québec, une des voitures, la seule voiture qui se faisait le voler est quand même à la troisième place. Mais il faut savoir que, tu sais, allait-on en 2022, il s'est volé 506 Honda Civic dans la province du Québec, ce qui est quand même élevé. C'est tout à peu près des années 2019 de Civic qui ont été ciblés, 2018-2019.
Est-ce qu'on sait pourquoi?
Il y a des générations, il y a une nouvelle génération qui vient de sortir. Des fois aussi sur l'exportation, c'est plus facile parce que les pièces existent ailleurs dans le monde.
Voilà,
okay. Plus facile de les embarquer ces bateaux, de les shipper ailleurs parce que les mécaniques sont déjà connues. On a déjà ces voitures-là et les systèmes de vol sont déjà prêts. Ça veut dire, mais tu sais, l'espèce de bidule pour capter l'onde, ben pour les Civic de cette génération-là, il est prêt, il fonctionne. Tandis que des fois, pour les nouvelles Civic, il ne fonctionne pas encore. Fait que c'est peut-être juste une question de temps, mais pour l'instant, c'est cette génération-là qui était visée. Mais tu sais, on a quand même 224 688 Honda Civic assurés sur le territoire. Fait que ça représente seulement 0,2% de fréquence de vol, ce qui en fait une des meilleures dans le palmarès à ce niveau-là. Fait que pour le nombre de Civic qu'on a sur la route, c'est pas si pire le nombre qui s'est fait voler. C'est un peu ça qu'on dit, malgré que c'est une des voitures qui a eu le plus de vols quand même. Il y a 506 Honda Civic qui s'est fait voler en 2022. Fait que c'est quand même une des voitures à surveiller à ce niveau-là.
OK. Mais est-ce que tu t'achèterais un Honda Civic, toi?
Sans problème, vraiment. Sans problème, vraiment.
Parce que c'est-tu à Québec quand ça s'est passé? Il me semble que c'était à Québec. Un gars qui avait un véhicule qui était très prisé par les voleurs, que ça l'a fait voler trois fois. Là.
Oui, oui. Et puis, ben, c'est
trop quatre fois.
C'est pas l'histoire du Honda CR-V?
Ouais, c'est ça.
Je pense qu'il y a le CR-V, hein, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Puis c'est une chaîne de... Puis là, maintenant, les assureurs veulent plus l'assurer. mais c'est terrible, honnêtement. C'est l'histoire terrible. C'est drôle parce que cette semaine, j'ai un véhicule d'essai. C'est un Lexus.
Ouais.
Puis Lexus est très bon aussi dans les palmarès des véhicules volés. Puis honnêtement, tu ris, mais tu sais, chez nous, j'ai mis ma clé dans un petit boîtier anti-onde.
Ça s'appelle une boîte de Faraday.
Exactement. Juste pour qu'elle coucher les ondes à terre.
C'est 20$, là.
Ah, c'est ça. Je l'ai acheté parce que des fois, je me dis, maintenant, je me fais voler mon véhicule d'essai. Es-tu là, niaise? Je viens de commencer dans le domaine. Moi, là, je veux pas appeler Lexus Canada. Puis, votre char est parti.
Ouais, mais la boîte de Faraday, ça vaut 20$. Là. Ça vaut vraiment la peine. Puis, ça coupe complètement les ondes. Une fois que la clé, la carte à puce, est directement là-dedans, dans cette boîte-là, ils sont pas capables d'aller chercher les ondes de cette clé-là.
C'est réglé. Merci, bonsoir. Puis, ça fait en sorte que vous. C'est comme une garantie supplémentaire. Je vois beaucoup de gens, à vrai dire, j'ai vu de plus en plus de gens équiper leur véhicule de barres de volant aussi, là, des espèces de barres qui viennent mettre une pression sur le volant, comme ça on ne peut pas le tourner. Puis c'est barré par une petite clé. Fait qu'on on peut pas, c'est comme une genre de barre anti-vol. Là.
Costco Sainte-Foy, j'ai vu un gars qui était avec un Jeep électrique. Qui faisait partie des véhicules qui étaient très convoités par les voleurs aussi il y a de ça quelques mois. Et il avait mis un sabot de Denver.
Oui.
Un sabot de Denver. C'est l'hiver, puis tu prends la peine de sortir de ta voiture pour aller chez Costco. Tu sors, tu mets un sabot de Denver.
Oui. C'est quand même 433 Jeep qui ont été volés. Là. C'était, ouais, c'est la cinquième position, le Jeep Wrangler, quand même, dans la province. Puis, tu sais, la fréquence de vol est quand même élevée. On est à 1,5% versus le nombre de véhicules sur le marché. Fait qu'elle est quand même plus élevée que le Civic. Fait que le Jeep se fait voler plus fréquemment sur le territoire par le nombre de véhicules en circulation qu'un Honda Civic, quand même. Là. Fait qu'on voit que c'est vraiment un véhicule prisé. Puis, encore une fois, c'est le même principe. C'est des véhicules qui sont facilement exportables. Puis, souvent, qui traînent des mêmes générations. C'est les mêmes systèmes d'infodivertissement. C'est les mêmes systèmes de clés un peu qu'on traîne et qu'on traîne génération après génération. Fait que les voleurs, les malfrats, ils ont le temps de développer le bon outil pour capter ces zones-là. Puis, ensuite, en faire des véhicules facilement volables.
Ils trouvent comment? Ils se promènent dans les quartiers ou encore ils vont au centre d'achat puis ils te suivent pour savoir où t'as.
Je suis pas expert en vol. Je sais qu'il existe des policiers là, spécialisés dans le domaine. Je pense vraiment pas qu'ils te suivent jusqu'à chez vous pour savoir où tu habites ou comment ça fonctionne. Je pense que c'est vraiment plus une pêche. On va se promener dans un quartier. On va retrouver des véhicules qui sont ciblés, un F-150, un CR-V, un Highlander, un Jeep Wrangler. Tu sais, quand même une dizaine de véhicules dans le palmarès. Puis c'est des véhicules extrêmement vendus. Fait que les chances que tu en trouves un dans un quartier fortuné un peu plus dans le banlieue de Montréal ou banlieue de Québec ou quelque chose du genre, c'est quand même possible. Les chances sont quand même bonnes. Fait qu'on se promène, on regarde comment le véhicule est stationné aussi. Fait qu'il faut pas qu'il soit stationné en arrière d'une autre voiture parce qu'on pourra pas le sortir facilement de la cour.
Ouais.
Fait qu'il faut qu'il soit facilement dégageable. Puis une fois qu'on l'a spoté, bien là, on va prendre en note les adresses, les rues, puis on va revenir après ça plus tard dans la nuit, souvent, aller chercher le véhicule.
Ben, tu vois, je voyais ça moins compliqué que toi. Là. Je me disais, ben les gens vont au Galerie de la Capitale, exemple, identifier les véhicules, met les fameux hair tags sur les véhicules qui sont identifiés, puis après ça, ben dans la nuit, ils se préparent un squad, puis ils vont voir le véhicule, es-tu disponible? Comme tu dis, y a-tu un autre véhicule qui est derrière? Ah, OK, il est facilement sortable, on va sortir.
Puis c'est pas impossible que ça arrive, ça aussi, mais j'imagine que, tu sais, des fois, mettons, quand tu vas dans les galeries de la capitale, tu mets des hard tags, mais les chars s'en vont loin après ça, tu sais pas ce qui s'en vont vraiment le monde. Là. Fait que c'est peut-être plus difficile après ça pour ton getaway, là, partir avec le véhicule, puis prendre l'autoroute, puis te sauver avec le char. Il faut que tu sois logique dans ton positionnement d'où tu le voles, ton véhicule. Fait que là, je parle de ça comme si je faisais ça dans la vie, mais c'est parce que je lis beaucoup là-dessus.
Ben, on parle des stratégies, moi, c'est des genres de choses qui m'intéressent. T'sais. Je me dis, quand je vois des articles là-dessus, je me dis, ça vaut vraiment la peine que je lis ça, ça m'intéresse, c'est un autre monde. Puis à Montréal, je pense que quand tu réussissais à voler un véhicule, ça pouvait te donner entre 5 000 et 15 000
Oui, absolument, cash.
Pour un voleur la nuit.
Oui, cash. Fait que t'avais envie d'en voler beaucoup.
Puis d'ailleurs, j'ai raté ma carrière.
Oui, mais moi aussi, dans le fond. Là. Mais les stratégies de vol, c'est assez simple aussi. Une fois qu'on a réussi à trouver le bon véhicule, on a pensé à notre patente de comment on allait le voler, puis tout est fait. On prend le véhicule, on part avec, puis souvent, on va le laisser. On va l'abandonner pendant 24 heures. On va le mettre dans un stationnement public, un galerie de la capitale ou quelque chose de genre. Puis on va laisser le véhicule-là poireauter pendant à peu près quelques 24 heures maximum. Là,
on le laisse refroidir.
Pour voir s'il n'est pas tagué ou s'il n'y a pas quelque chose autour de ça. Exactement.
OK. Il y en a des stratégies.
Ouais, ils sont bons, mais là, la beauté, c'est qu'on en parle tellement beaucoup que c'est intéressant. C'est juste triste parce qu'à force de se faire voler des voitures, ben on a aussi des augmentations d'assurance qui viennent avec.
T'as-tu vu ce que l'Ontario veut faire? On passera pas au travers de tous les sujets qu'on voulait jaser.
Ah, mais c'est pas grave.
T'as-tu vu ce que l'Ontario veut faire?
Non.
Si tu te fais déclarer coupable d'avoir volé un véhicule...
Ouais.
Tu perds ton permis de conduire.
Oui.
Est-ce qu'on pourrait embarquer là-dedans ici, au Québec?
Mais oui, j'espère qu'on pourrait faire ça.
Je trouve ça franchement intéressant.
Oui, j'espère. Puis, tu sais.
Quoi qu'il y ait du monde qui n'auront jamais de permis de conduire. Là,
mais... Non, mais c'est ça l'affaire. C'est que souvent, les gens. Je veux pas faire de la généralisation à bord des voleurs. Je m'excuse, ceux qui volent les gens. Mais dans ma tête, moi, c'était pas tous des gens qui avaient déjà des permis de conduire. Là. Des gens qui sont plus jeunes aussi. C'est des gens qui sont pas majeurs parce que s'ils se font pincer, c'est moins grave. Mais dans le cas de l'Ontario, c'est pour tous les âges. Là. Peu importe l'âge à laquelle tu te fais arrêter. Si tu n'as pas de permis de conduite, tu n'en auras jamais. Là. Bonne chance pour en avoir un. Là. On ne va jamais vouloir te faire passer un examen de conduite. Puis ça, je pense que c'est déjà un élément intéressant.
Ça peut dissuader une partie de la population.
En tout cas, moi, je ne suis pas voleur de char, mais si je l'étais, j'aime tellement conduire que je ne serais pas capable de perdre mon permis de conduite de même. Ça me ferait bien trop de la peine longtemps. Là. Fait que je pense que ça peut marcher. Après ça, écoute, c'est encore une autre mesure... C'est juste de suspendre un permis de conduire au bout de la ligne. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que c'est pas assez sévère. Peut-être qu'on pourrait être un petit peu plus sévère, encore une fois. Chose certaine, c'est que c'est un pas vers la bonne direction. Puis je pense qu'au Québec, on pourrait assurément faire la même chose. Là. C'est pas si complexe que ça. T'as volé un char, mais tu peux plus avoir de permis de conduire.
Pour un genre de 2-3 ans.
Ben là, c'est jusqu'à 10 ans. Là. C'est 10 ans, puis après,
c'est 10 ans.
Ça, puis après ça, ça peut être à vie. Tu peux aussi le perdre à vie. Là. Il y a des gens qui peuvent le perdre à vie dans certains cas. Là. Fait que,
c'est moi qu'on appelle le dictateur après.
Non, mais je sais pas qui t'appelle de même. Je sais pas qui t'appelle de même.
T'sais, moi, je trouvais que c'était des pénalités très sévères. Là. Je me souvenais plus que c'était un genre de 10 ans, mais entre un an et 3 ans, pas de permis de conduire, ça dissuade.
10 ans pour une première infraction, 15 ans pour une deuxième.
Ce sera ça.
Pis si tu te refais pogner, c'est à vie. C'est
j'embarque.
C'est le même qui ont décidé, eux autres, en Ontario.
J'aime ça quand vous êtes sévère. Et restais-tu d'autres véhicules dans le top 10?
Il en reste, toujours une belle panoplie parce qu'on s'entend que les véhicules volés, il y en a plusieurs. Le Dodge Ram fait partie de la liste aussi. Le Toyota Highlander aussi est là.
C'est tellement un beau char.
Le
Highlander.
OK, c'était comme le Ram ou
le Highlander? C'est tellement un beau véhicule, le Highlander. Là. Je le regarde. Même les vieux Highlander, je les trouve beaux.
Oui, hein?
Oh, ouais, vraiment.
Là, t'aimerais le véhicule que j'ai actuellement? J'ai un TX550. C'est un Lexus TX550 HF Sport 2024 All-Wheel Drive. C'est un petit nom, là, c'est super léger.
Un TX?
TX550 HF Sport. Je suis désolé pour le nom long, c'est le même qui s'appelle, c'est pas moi qui l'ai décidé.
HF.
Ouais, c'est comme basé sur le Toyota Grand Highlander, qui est l'espèce de grand frère du Highlander qui existe maintenant. C'est un VUS à 3 rangées, fait qu'on a 3 rangées de sièges à l'intérieur.
Wow. Okay.
Puis il y a un look... Que moi, personnellement, puis c'est une question d'opinion rendue là, c'est des goûts. Moi, j'aime pas la grille à l'avant de ce véhicule-là. Je trouve qu'il a l'air un peu comme les dents avancées. Là. Il a pas l'air d'être très brillant du devant, mais une fois qu'on le regarde de derrière avec un bon angle, il est magnifique. Là, j'ai une édition avec les gros mags, les 22 pouces. Il est beau. Mais du devant, je le trouve un peu niaiseux.
Il a pas l'air d'être intelligent du devant.
Non, il a pas l'air intelligent, je trouve.
Tu veux pas te faire décrire de même dans la vie.
Non, mais c'est ça. Mais l'arrière, par contre, je le trouve magnifique. Je trouve vraiment qu'il y a une belle signature de lumière sur ce véhicule-là. Puis. c'est un véhicule justement qui vient un peu comme rendre le Highlander encore plus luxueux. On a la nouvelle motorisation hybride à bord, c'est un 4 cylindres avec le même groupe motopropulseur qu'on peut voir chez Toyota avec le Highlander, le Grand Highlander aussi, et le Tacoma, fait qu'on partage certaines spécifications techniques ici.
Hey, le noir, c'est vraiment beau.
Oh, ouais, c'est un genre de véhicule assez luxueux, honnêtement. Là aussi, là, à l'intérieur, on a une belle assise, les sièges sont super beaux. Pas parfait, mais je vais vous inviter à lire mon article sur le site de rpmweb.ca qui va sortir très, très bientôt par rapport à ce véhicule-là, parce que je vous en fais un bon résumé, puis si vous magasinez dans le 3 rangées de sièges. T'sais, on peut penser, mettons, au Kia Telluride ou à ces genres de véhicules-là. Lui, il est à 86 000. Là, fait que c'est quand même un véhicule plus dispendieux. Mais ça peut devenir drôlement un compétiteur parce que quand on équipe bien un Ford Explorer, un Expédition ou qu'on va chercher ces gros camions-là puis qu'on les équipe comme il faut, là, c'est pas long que ça grimpe très, très vite en prix aussi. Ouais. Fait qu'il se positionne quand même assez bien dans l'univers des 3 rangées de sièges. Mais j'ai hâte de vous en parler davantage. Vous irez lire ça si ça vous tente de découvrir ça.
Mais bref, le Highlander est à tes cœurs.
Le Tucson est aussi dans le top 10 hein, des véhicules volés. Là. Il y a des Tucson, Ford F-150, Jeep Grand Cherokee, Toyota RAV4. C'est incroyable comment des RAV4 qui se font voler. Là. C'est assez impressionnant. Ils ont vraiment eu beaucoup de problèmes de vol. 425 exemplaires qui ont été dérobés. Mais vu qu'on a, encore une fois, beaucoup de RAV4 sur les routes, on n'a quand même pas un si haut niveau de fréquence de vol, on est à 0,3%. Fait que c'est assez faible à ce niveau-là. Mais ça, c'est triste parce que ces véhicules-là, tous les véhicules que je vous nomme là, font aussi partie du palmarès des véhicules que leurs assurances vont augmenter dans les prochaines années. Donc, si vous êtes propriétaire d'un de ces véhicules-là, attendez-vous à une hausse des assurances. J'en vois passer sur des groupes actuellement, des gens qui pique des sauts en bon français.
Oui, puis magasinez pour vos assurances, hein, parce que les compagnies d'assurance, bon, ils font des pieds et des mains pour vous avoir, mais ils vous rappelleront pas pour dire « Hey, vous êtes un bon conducteur, on va vous baisser votre prime d'assurance. » C'est tout le temps en augmentant. Puis quand tu décides de commencer à faire des téléphones, puis finalement tu reviens avec ton assureur premier, puis tu te dis « Garde, je trouve intéressante là, le renouvel, je le trouve intéressant ton renouvellement, mais... Ouais. » Il est 250$ trop cher de ce que j'ai l'autre côté. Tu peux-tu faire un effort? Ils vont le faire très rapidement, cet effort-là. Ils veulent pas vous perdre. Puis, tu sais, Sam, ce que je savais pas, puis j'ai parlé avec un de mes chums qui a travaillé longtemps chez Desjardins pour ne pas les nommer, c'est que la première lettre qui t'était envoyée, qui te dit « Sam, voici une augmentation de 125$ ton assurance », c'est pas ton courtier en assurance qui te l'envoie, c'est un ordinateur.
Ah, OK. Je sais pas non plus.
Donc, l'ordinateur, il a calculé que ça sera ça, ton augmentation. Et si tu appelles, là, tu vas parler à un courtier. Et là, lui, il va être capable de jouer un peu puis de descendre.
Les robots, c'est strict, un robot.
Ils sont cruels.
Ils sont cruels, les robots. Mais les humains sont plus flexibles.
Ça dépend. Si tu parles avec un actuaire, il est un peu moins flexible. Mais le robot, effectivement, c'est lui qui t'envoie ta première lettre de renouvellement. Il t'envoie ta première lettre de renouvellement, puis quand t'appelles, ben c'est là que les économies peuvent arriver, surtout quand tu leur dis que t'es sur le point de quitter.
OK, c'est bon à savoir, ben c'est des bons trucs, ça.
T'es-tu un ami actuaire ou...
Non, ça m'a fait vraiment rigoler, j'ai trouvé ça, on dirait que j'ai vu l'image directe. On salue les actuaires, je sais pas.
Moi, je les appelle les psychopathes dans le milieu, là. Ils ont pas d'empathie pour les gens, ils font juste des calculs. En disant, ben regarde, c'est ça la vie, c'est ça que tu représentes comme risque, fait que voici comment ça va te coûter. Ouais. Ils sont pas là pour sauver ta vie, là.
Je suis comme shaky, ça m'a comme pris par en dedans.
Voilà. Ben écoute, on va profiter de ce fou rire pour faire une courte pause. On va vous revenir après, n'ayez crainte. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile, on peut te retrouver à quel endroit?
Sur Facebook, Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile. Vous pouvez me contacter quand vous voulez. Je réponds à tout le monde. Laissez-moi juste une chance de vous répondre. Des fois, il y a des gens un peu qui ont hâte que je réponde, mais je fais mon possible, OK? Je vous réponds, je vous le promets. Écrivez-moi, ça me fait immensément plaisir de vous parler.
Toi, c'est des passionnés de voiture, mais imagine-toi, c'était les femmes. Il y avait immensément hâte que tu leur répondes.
Oui, ma blonde serait déçue. Là.
Oui.
Ma blonde serait...
Ah, ça placote pendant la pause sur les zones de boulevard 102.1. On s'excuse à toute l'association des actuaires. On sait que vous n'êtes pas des psychopathes. C'était une blague. C'est juste que moi, j'ai un chum qui en est un. Et c'est mon psychopathe favori. Fait que, bref.
Bon, voilà. Au moins, c'est ton favori.
Exact.
C'est ça.
Exact. Hey, il restait quelques sujets à jaser. Les Japonais, les constructeurs japonais de véhicules se sont fait prendre au niveau de la pollution, au niveau environnemental. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui te surprend? Je sais qu'il y a de ça plusieurs années. Hey, ça doit faire quoi, 20 ans? C'est-tu Volkswagen qui s'était fait prendre, là, parce qu'ils mentaient un peu sur leur...
Pas 20 ans, c'est une dizaine d'années, à peu près.
Une dizaine d'années?
Ouais, à peu près, le Dieselgate, c'est assez frais encore.
C'était
là.
Le diesel.
Puis Volkswagen paye encore énormément cher pour ça. Là. Ils se font sanctionner encore beaucoup par plusieurs pays encore. Ah oui, vraiment. Puis ça a coûté des milliards à Volkswagen, cette histoire-là. C'est une des... À vrai dire, c'est le scandale automobile le plus coûteux de l'histoire automobile, point barre. Même plus que quand GM mettait des starters dans les voitures qui explosaient, puis le monde mourait. Là. C'est comme, pour vrai, c'est des vraies choses que je vous dis là. C'est des vraies statistiques. C'est triste de même. Volkswagen s'est vraiment en fait pincé fort sur les doigts, majeur par rapport à ces fameux logiciels trucage espions-là qui venaient dire ben non, mais mon véhicule émet tel nombre de CO2. Mais quand on calculait pour de vrai, ça n'arrivait pas. Fait que là, on fait que non, c'est parce que ton système, il dit pas bonne affaire. Ah, tu as une erreur de calibration. Non, non, c'est parce qu'il y avait quelque chose dans le système qui faisait exprès de donner une fausse donnée. Fait que là, les véhicules roulaient, étaient plus polluants que qu'est-ce qui était censé être, ne respectaient pas les normes d'émissions émises par les pays. Donc, les pays disaient, moi, tes véhicules peuvent pas émettre X nombre de CO2 ou X nombre de patentes. Et là, ben on a vécu cette espèce de transition-là où est-ce que Volkswagen s'est fait vraiment taper solide sur les doigts. Puis ça a été un peu, après ça, fil en aiguille, Stellantis aussi, Ram avec les diesels. Il y a d'autres constructeurs qui se sont fait épingler aussi là-dedans. Moins grande échelle.
Puis là, c'est les Japonais qui y goûtent.
Mais là, l'affaire, c'est que il y a comme toujours une confiance autour des constructeurs japonais. Quand je parle des constructeurs japonais, Honda, Toyota, Mazda, Suzuki, back in the days, là, aujourd'hui, c'est plus des motos et des quatre roues. Yamaha aussi, tout ce qu'on peut penser de véhicules tout-terrain.
Je m'ennuie du Suzuki Sidekick.
Moi, je m'ennuie de Suzuki SS4. J'aimais beaucoup cette voiture, un peu entre le VUS et la voiture manuelle, all-wheel drive, mais tu pouvais choisir deux roues motrices.
Ouais.
C'était capoté. J'aimais beaucoup ce produit-là. Vraiment, c'était un petit tank en plus, ce véhicule-là. Bref, les Japonais ont fait des véhicules, encore une fois, historiques. Et là, ce qu'on vient d'apprendre, puis c'est arrivé tout chaud, tout frais, c'est arrivé hier, à vrai dire, là. Lundi, à vrai dire, avant-hier. Le ministère japonais des transports a révélé vraiment un gros scandale. Ces cinq gros joueurs-là, Toyota, Honda, Suzuki, Mazda et Yamaha, ont été accusés d'avoir falsifié les résultats de tests de certification de plusieurs de leurs modèles. Fait que ce qu'on sait, c'est que c'est au Japon actuellement, là, ça touche pas les produits nord-américains, ça concerne seulement le Japon. Mais le problème, c'est que ces constructeurs-là exportent pas mal ce qu'ils font au Japon partout ailleurs dans le monde. Là. Fait que là, ça amène un peu un autre questionnement. OK, on est-tu en train de vivre un deuxième Dieselgate, mais la version japonaise? La seule affaire qu'il faut savoir, c'est que le peuple japonais est un peuple très strict aussi. Et là, le ministère des Transports a dit, ben là, à cause de ça, tous les véhicules qui sont concernés dans notre étude ne peuvent plus être produits. Donc là, on a arrêté les usines de production de ces véhicules-là. Puis ça, c'est un méchant coup de poing en pleine figure pour ces constructeurs-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ces véhicules-là qui ne pourront pas être exportés. Et si on prend du retard de production, bien, c'est l'exportation aussi, c'est les livraisons, c'est le déploiement des stratégies de commercialisation. Bref, grosse affaire pour eux. Puis on a aussi appris dans cette espèce de grosse étude-là qui a été faite, il y a quand même 85 marques automobiles qui ont été analysées par le ministère. C'est ces cinq-là qui ont sorti comme étant les fautives. Et on a aussi appris qu'il y avait des tests de sécurité aussi qui ont été falsifiés par Toyota. Ce qu'on dit, c'est que dans le fond, il y a des données qu'on a eues par rapport à des tests d'impact, des tests de déploiement de coussins gonflables, tu sais, quand on fait un accident avec le véhicule pour voir son niveau de sécurité. Ben là, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs produits qui ne répondaient pas du tout aux certifications demandées pour être sur la route. Fait que c'est des produits qui seraient dangereux. Toyota a quand même mis de l'eau, un peu de l'eau dans le vin en disant, là, t'as peu, on est pas, nous autres, on pensait que les données étaient bonnes. C'était peut-être une erreur de calcul, là. En tout cas, on verra, là. Mais tout ça pour dire que là, ça a vraiment bougé beaucoup au Japon. Puis pourquoi j'en parle, c'est que ça vient d'arriver. On vient d'apprendre ça au Japon pour lundi. Mais on va assurément avoir des nouvelles de ça dans d'autres pays, il va y avoir d'autres études. Là, si le ministère japonais a été aussi strict sur l'arrêt de production de ces véhicules-là, on risque de voir des petits de ça dans d'autres pays, peut-être même en Amérique du Nord même, à surveiller, honnêtement. Là, pour l'instant, on ne vire pas fou. Là. Il y a pas de...
Est-ce qu'on pourrait avoir des giga-rappels, mettons?
Peut-être. Des giga-rappels, un peu comme Vaux l'avait fait. D'ailleurs, hein, Vaux avec les moteurs TDI, on avait offert des réparations aux propriétaires des TDI pour les rendre aux normes. Ça se peut que ça soit ça. On a aussi offert de racheter les véhicules TDI à l'époque chez Volkswagen. On rachetait les voitures aux propriétaires directement. Donc, il y a eu plein de possibilités. Il y a plein de choses à voir. Mais là, on n'est pas là avec le cas de Toyota non plus et Honda, Suzuki et compagnie parce que c'est pas nécessairement des véhicules qui roulaient exactement sous la même forme ici en Amérique du Nord. Des fois, c'est des motorisations qui peuvent se partager. Fait que ça se peut qu'on ait des moteurs qui qui font partie de ce que le ministère des Transports japonais a trouvé comme étant fautif, mais on n'aura pas le même véhicule. T'sais, les modèles de véhicules, c'est pas les mêmes. Fait que là, à voir et à suivre, là, on ne part pas en peur, mais c'est quand même une autre étape de plus sur la confiance envers ces constructeurs-là. Et puis le ministère japonais était vraiment en mode, là, on a une confiance à regagner envers le monde. Là. Fait qu'il y a vraiment des mesures très strictes qui ont été prises contre ces constructeurs-là, qui sont Toyota et le constructeur mondial numéro un. C'est le plus gros constructeur de véhicules au monde. Là. Fait que c'est quand même pas des petits joueurs. Là. C'est quand même quelque chose.
Ouais. Samuel Tremblay-Michaud, en, mettons, deux minutes, je veux te parler de la fameuse taxe sur l'immatriculation. Avez-vous parlé un peu dans votre entourage? Valérie Plante qui décide de mettre un genre de 150$ de plus sur l'immatriculation dans la grande région de Montréal pour financer le transport en commun. Bruno Marchand qui a mis un 10$ de plus temporaire. Les rumeurs qui émanent de l'Hôtel de Ville de Québec, ça ressemble à du 60 à 90$ qu'on demanderait de plus aux usagers de la route, donc à ceux qui s'immatriculent. Vous en pensez quoi de ça, vous autres?
Ben, moi, mettons de mon côté, ce que je trouve encore tannant, c'est qu'on met encore de la pression sur les gens qui ont des voitures. Déjà qu'on paye notre essence avec une taxe extrêmement élevée, la taxe verte qui nous coûte une fortune à la pompe. Déjà qu'on a des coûts d'immatriculation par année qui sont quand même assez élevés aussi. Là. On paye déjà pour nos plaques, tout le monde paye pour des plaques. Quand tu vois la quantité de véhicules qui sont sur la route actuellement, puis je prends le mot véhicule pour englober plein de choses, les fameux vélos électriques, les trottinettes, les ci, les ça, qui sont dans le chemin, qui n'ont pas d'affaire à payer une taxe de quoi que ce soit, eux, pour circuler, mais que là, on décide de financer encore les mèches automobilistes ou électromobilistes, mais qu'on taxe les gens qui ont des véhicules encore une couche de plus. Je commence à trouver ça lourd, honnêtement, un peu. Moi, je trouve ça lourd dans l'optique où, est-ce que justement, en tant qu'amateur de voiture, j'ai plus qu'un véhicule. J'ai pas juste ma voiture. Ouais. J'ai d'autres voitures autour de moi. Puis ça fait en sorte que là, quand je calcule ça, bien là, ça va coûter quand même pour vrai plus cher par année.
Ouais, c'est
même...
surtout qu'on n'aura pas de retour sur l'investissement. Non. Ça va être pour combler des déficits de gens qui ne savent pas nécessairement gérer le budget qu'on leur donne. Puis ils n'ont pas besoin d'être bons, en fait. Ils ont juste besoin de continuer à dépenser. Puis s'il en manque, ben, ce sera les automobilistes qui compenseront. T'as-tu l'impression que de plus en plus, comme il y a des véhicules électriques sur la route, j'essaye une Tesla cette semaine, puis je vais pas à station-service, je paye pas de taxes sur l'essence et tout ça. T'as-tu l'impression qu'à un moment donné, ils vont accentuer leur désir de taxes kilométriques.
Ben oui, c'est sûr, certain. C'est sûr ça que s'en vient. Ça va s'en venir, cette idée-là. Californie vient de faire un projet pilote qui est lancé depuis déjà une semaine ou deux. Donc, on a un projet pilote qui est lancé au niveau de la taxe sur le kilométrage. Je partirais pas trop en peur avec ça parce que la réalité entre un automobiliste en Californie qui ne se déplace pas des longues distances versus nous ici qui faisons d'énormes distances pour aller travailler ou des choses comme ça versus, mettons, quand on se compare, là, je pense pas qu'on va pouvoir amener quelque chose d'aussi béton de dès que tu fais un kilomètre, t'es taxé sur le kilomètre que tu roules. Je ne crois pas, du moins j'espère pas qu'on va se rendre là parce qu'honnêtement, ça sera plus viable d'avoir une voiture. Là. Ça va venir tellement dispendieux que qui va s'acheter des voitures là, maintenant? Là, on n'aura juste plus de voitures. Je sais que c'est un fantasme pour bien du monde, là, du monde qui vont me dire c'est ça qu'on veut. On veut que les gens aient plus de voitures, que les gens prennent le transport en commun.
Ces gens-là sont souvent seuls, célibataires, sans relation sexuelle, sans enfants, sans rien.
Et je peux pas affirmer tout ça. Mais en tout cas, clairement.
Mais ils se promènent à vélo puis ils sauvent l'environnement.
C'est ça l'affaire. C'est que là, tu sais, maintenant, je trouve que le dos est large pas mal sur l'automobiliste. Le méchant automobiliste, là, il est beaucoup pointé du doigt. Puis je pense pas qu'on est juste la solution. Je comprends qu'à Québec, on est une ville de voitures, qu'il y a beaucoup de voitures sur le chemin pour le ratio de gens qu'on est, mais on c'est comme ça.
Mais quand on regarde Québec n'a pas été bâti comme Montréal a été bâti. À Montréal, sur l'île, pour y avoir resté pendant quelques mois, tu n'as pas vraiment besoin de véhicule. Mais à Québec, quand tu as des enfants et tout ça, tu restes un peu plus en banlieue, tu n'as pas le choix. Pour... Si tu veux que tes enfants se fassent des sports la fin de semaine, tu n'as pas le choix d'avoir un véhicule. Est-ce que là, c'est un véhicule par famille, deux véhicules par famille, ce sera à eux autres de décider, mais le jour où tous ces utilisateurs du vélo et du transport en commun nous auront pu pour payer des taxes puis payer pour la réfection de la route, ça va être eux autres qui vont payer. Et là, ils vont dire on n'aurait pas dû les achaler, les automobilistes.
Il y a peut-être une espèce de balancier à pouvoir venir, effectivement.
Amener le mur va arriver. Ouais. Samuel Tremblay-Michaud, félicitations pour ton nouvel emploi. On a très hâte de voir de te voir à la télé. Bon, j'aurai besoin d'un peu plus de maquillage pour toi. Là.
Je ne suis pas capable de me voir à la télé.
Mais d'après moi, ils vont couper sur le budget de ta paye pour pouvoir compenser. dépenser sur le budget maquillage. Mais on va être là, on va t'écouter parce que je suis persuadé que tu vas être.
Parlez pas à peur. Moi, je travaille sur RPM Web. Je travaille sur le site d'RPM. Fait que là, la télé, là, c'est un autre projet.
Tu es ma star d'un soir.
Ah, ben merci.
Donc, on peut te voir sur les réseaux sociaux, Samuel Tremblay-Michaud.
Yes, Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile sur Facebook. Je n'hésite pas de m'écrire. C'est toujours un plaisir. Puis, si vous voulez débattre d'idées et compagnie, ben, ça me fait plaisir de le faire avec vous. Donc, je n'hésite pas.
Ben oui, puis une fois de temps en temps sur les ondes de boulevard avec Denis, puis une fois de temps en temps avec Marceau Soir. C'est toujours un plaisir de t'avoir.
Pareillement, merci de m'avoir reçu. Un immense plaisir.
Salut!